Le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour. Nouveau bijou des recherches en paléontologie dans le Jura. Le Centre de recherche et de conservation des collections paléontologiques, archéologiques et des sciences naturelles est Ordo à Porrentruy. Première visite dans ce journal. En radiologie, les patients ont tombé le tablier de plomb à l'hôpital du Jura. Plus nécessaire, voire même dangereux si mal utilisé. Vous entendrez les explications d'un spécialiste. Elle a participé aux demi-finales d'un prestigieux concours international de ballet. Eléa Gamba, jeune ballerine jurassienne de 14 ans, est revenue de Paris avec des étoiles plein les yeux. Peu de nouveautés dans le ciel, de la pluie demain, journée très maussade, peu voire pas d'éclaircies, pas plus de 7 degrés au meilleur de la journée. Et attention au vent, nous sommes en alerte degré 3 jusqu'à demain matin. Petit à petit, il a pris forme ces derniers mois à côté du musée Jurassica à Porrentruy, le centre de recherche et de conservation des collections paléontologiques, archéologiques et des sciences naturelles est désormais Ordo, un bâtiment de 3 étages et un sous-sol budgétisé à 5,2 millions de francs. Ce nouveau centre doit accueillir les bureaux de Jurassica, une salle de cours, une bibliothèque et les collections. Lucas Amos et Luis Pena, les architectes du projet, nous font la visite guidée, à commencer par l'imposant escalier qui a attire tous les regards au rez-de-chaussée.
L'idée était déjà demandée dans le concours d'assurer une visibilité entre tous les espaces qui permettent aux visiteurs de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment, qui a encore d'une certaine façon repris aussi une suggestion de la Villa Beauclerc qui a aussi un escalier qui est marquante dans cet espace.
Je vous propose qu'on emprunte ce fameux escalier. Premier espace, alors on évite les tuyaux de chauffage, je ne sais trop quoi, c'est ça ? C'est l'électricité qui est au sol, d'accord. Ce premier espace, c'est donc une grande...
salle de cours pour recevoir des classes ou pour faire des séances à plus grand nombre de gens. Donc on a à cet étage des fenêtres que pour... la salle de cours, la bibliothèque et encore la salle de pause pour les gens qui travaillent.
Pourquoi le sud ? On a décidé de le faire borgne.
L'idée, c'était une question d'expression du matériel qu'on a aussi choisi comme revêtement du bâtiment, les bardeaux. L'idée était un peu de transmettre à travers l'image du bâtiment l'idée de stockage, de garder les collections et donc de transmettre un peu une idée d'un coffre, donc le rendre plutôt borgne. Donc il y a un contraste entre les 2 étages d'en bas qui sont plutôt fermés avec les fenêtres très localisées et le 2e étage qui est vraiment l'étage qui accueille tous les bureaux et que lui, par contre, est vitré tout autour, faisant une genre de lucarne autour du bâtiment.
Lucas Amos, on est tout en haut, c'est ça ?
Oui, on est tout en haut. Et le dernier étage, toute la charpente en bois va rester visible.
Luis Pena, pourquoi cette présence abondante du bois ?
C'était un souhait du maître d'ouvrage dès le début. Et donc on a développé un projet, et en plus en bois suisse et jurassien si possible, ce qui a pu se faire. C'était un défi et c'était un élément de enrichissement du projet.
Les 2 architectes du groupement FPA étaient avec Nancy Chapuis. Le centre de recherche et de conservation devrait être opérationnel milieu d'année prochaine. La Villa Beauclerc juste à côté sera alors exclusivement consacrée au musée Jurassica. Le tablier a du plomb dans l'aile en radiologie. Vous n'êtes plus tenu de porter cette ceinture ou ce pagne très gracieux quand vous allez faire une radio à l'hôpital. Le tablier censé nous protéger n'est plus obligatoire, même au contraire. De récentes études ont démontré que l'effet de son utilisation était négligeable pour le patient, voire même néfaste. L'Office fédéral de la santé publique lui-même recommande de ne plus l'utiliser. L'hôpital du Jura suit donc ce conseil pour des raisons évidentes depuis le mois de juin, selon Nassim Medraoui. Il est expert en radioprotection.
La mauvaise utilisation du tablier plombé était devenue plus dangereuse qu'une utilisation standard. En fait, on s'est vraiment rendu compte que les bénéfices du tablier plombé étaient devenus vraiment négligeables. À plus forte raison qu'ici, à la JU, on a un parc technologique qui est vraiment avancé, avec des doses qui sont minimes. Et donc, vraiment, l'utilisation de ce tablier était devenue vraiment négligeable. Ça ne servait plus à rien. Et s'il était mal utilisé, c'était même non bénéfique pour le patient. Ça engrangeait plus de doses qu'autre chose.
On parle justement de mauvaise utilisation. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer qu'est-ce qui fait que c'est mal utilisé ?
On a un champ d'acquisition, c'est comme pour une photo. On cadre donc la région à radiographier. Il se trouve que si dans ce cadre, on met ne serait-ce qu'un petit bout de tablier plombé, l'appareil qui est donc automatique va générer plus de doses pour arriver à une qualité d'image équivalente. Ce qui fait qu'on va délivrer encore plus de doses que s'il n'y avait pas le tablier dans ce champ. Si on met maintenant le tablier, l'appareil va vraiment envoyer des rayons jusqu'à établir une radio qui serait pour lui bonne, alors que sans cette part de tablier, ben, on aurait la même radio, mais avec beaucoup moins de doses au final.
Un des propos recueillis par Loïc Georgi, le tablier reste en revanche conseillé pour le personnel exposé aux rayons toute la journée. Par ailleurs, une nouvelle salle de radiologie équipée des dernières technologies devrait ouvrir à la JU en janvier. Un automobiliste a été pincé à 103 km/h sur un tronçon limité à 60 à Courant-de-Lain. L'infraction fait partie des statistiques sur la circulation routière pour octobre, publiées ce matin. Selon la police, un autre conducteur a été flashé à 125 km/h dans la zone limitée à 80 à Lajoux. Au total, plus de 33 000 véhicules ont été contrôlés le mois dernier, 28 retraites permis, 61 personnes ont fait l'objet d'un rapport au ministère public. Statistiques à retrouver sur notre site internet rfj.ch. Les maires francs-montagnards se réunissent pour la dernière fois de l'année ce soir. L'Assemblée générale du syndicat des communes des Franches-Montagnes se tient au Noirmont. Au menu notamment deux présentations, une réjouissante, l'autre un peu moins plaisante, Nicolas Meusy.
La séance de ce soir débutera par les réjouissances. Le syndicat d'initiative des Franches-Montagnes viendra présenter un nouveau projet au maire Ténion. Selon le président du SIFM contacté ce matin, il s'agit d'un projet rassembleur pour promouvoir le tourisme dans le district. Jacques-André Aubry attend ce soir pour en dire davantage. La seconde présentation est moins positive. Depuis l'an dernier, une majorité des communes téniennes a dû changer de logiciel informatique. La prise en main n'est pas simple et les administrations sont confrontées à divers problèmes. L'association des employés communaux des Franches-Montagnes a réalisé en octobre une enquête de satisfaction auprès des communes. Sa présidente Claire Donzé en présentera les conclusions devant les maires francs-montagnards.
Et le syndicat des communes des Franches-Montagnes transmettra également des informations concernant l'avancée de la zone d'activité d'intérêt cantonal. Il reste encore un round à disputer dans ces élections fédérales 2023. Ça se passe dimanche prochain dans 5 cantons où il faut encore élire 6 conseillers aux États. Et il y a du suspense à Zurich, au Tessin, à Soleure, à Chafouges et en Argovie. L'UDC, à l'occasion de transformer en triomphe un automne électoral qui lui a déjà souri, analyse avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Les regards sont surtout tournés vers le plus grand canton, Zurich, où le socialiste Daniel Josic a déjà été réélu le 22 octobre et où il faut élire un successeur au PLR Roedi Nozer qui ne se représente plus. Le duel de dimanche prochain oppose l'UDC Gregor Rutz à la Vert libérale Tiana Moser. Qui des deux sera correctement mobilisé, le bloc bourgeois pour le candidat UDC, le bloc de gauche pour la Vert libérale? À Soleure, le PS doit défendre sa place avec Franziska Roth, opposée à l'UDC Christiane Imark, léger avantage à la socialiste au premier tour. Même situation à Chafouze, où le socialiste Simon Stocker a précédé le sortant indépendant, mais intégré au groupe UDC Thomas Minder. En Argovie, l'UDC devrait l'emporter avec Benjamin Gitzon-Danner, à moins d'une alliance très large derrière la centriste Marianne Binder. Le Tessin doit lui élire ses deux conseillers aux États. Le sortant et président de l'UDC, Marco Chiesa, devrait l'emporter sans trop de soucis. Mais la lutte est chaude pour le deuxième siège, entre le centriste Fabio Regazzi, le PLR Alex Farinelli et la verte Greta Ghisin. Avantage au président de l'USAM, Fabio Regazzi, au premier tour. L'UDC peut refaire un carton ce dimanche s'il l'emporte partout, à moins d'un sursaut de la gauche. La surprise, ce serait l'élection des deux candidates vertes au Tessin et à Zurich.
200 personnes se sont réunies ce matin sur le campus universitaire à Lausanne pour protester contre la venue du président français Emmanuel Macron. Elles ont manifesté leur colère envers son soutien à Israël dans le conflit au Proche-Orient. Les jeunes ont défilé au sein du campus où Emmanuel Macron et Alain Berset sont arrivés à 10h15 pour visiter la fondation Jean Monnet pour l'Europe. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme sur la situation potentiellement explosive en Cisjordanie occupée. La police israélienne annonce avoir neutralisé 3 assaillants après une fusillade près d'un barrage de sécurité qui reliait Jérusalem à la Cisjordanie. Les secours israéliens font également état de 4 blessés par balle, dont un dans un état critique. En Ukraine, l'armée russe accentue son assaut sur la ville d'Avdivka dans l'est du pays, devenue la cible principale de l'offensive russe sur le front ouest. Nord-Est. Cette cité industrielle comptait quelque 30 000 habitants avant la guerre. Elle est aujourd'hui largement détruite et peuplée d'à peine 1 500 personnes. Retour dans la région où elle est la première jurassienne à avoir pris part à un prestigieux concours de ballet. Eléa Gamba, une jeune danseuse de Courandelin, a participé début du mois aux demi-finales du Young America Grand Prix, compétition qui rassemble l'élite des étudiants en danse de 9 à 19 ans. La jeune ballerine de 14 ans a fait presque face à 150 concurrentes venues de 28 pays différents sur les planches du théâtre Malraux à Paris. Si elle n'a pas pu participer à l'étape finale, Eléa Gamba a beaucoup appris lors de cette expérience insolite.
J'ai adoré, vraiment, j'ai découvert plein de nouvelles choses. Il y a beaucoup de filles qui venaient de partout dans le monde. Du coup, ça m'a permis de faire plein de nouvelles connaissances, plein de nouveaux amis. J'ai appris beaucoup de choses, notamment pendant les cours de danse. Ça m'a permis de beaucoup progresser, de rencontrer de très grands professeurs qui ont donné plein de bons conseils que je garde aujourd'hui pour les cours ici à Delémont.
Vous avez fait d'autres concours déjà par le passé. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là en comparaison avec les autres ?
Il y a beaucoup plus de pays qui sont représentés et il y a un niveau qui est globalement beaucoup plus haut qu'aux autres concours auxquels j'ai pu participer. Et du coup, c'est assez stressant, mais c'est vraiment une belle expérience.
Eléa Gamba au micro de Jocelyn Haddad. Elle prévoit déjà de se représenter au Young America Grand Prix l'année prochaine.
Vous écoutez RFJ, les 12h27.
Sport. Quentin Juillard manquera l'ouverture de la Coupe du Monde de bobsleigh cette fin de semaine à Yangqing, en Chine. Le pousseur jurassien qui fait partie de l'équipe du pilote grison Cédric Folador a décidé de faire l'impasse. Il n'avait déjà pas beaucoup concouru l'hiver dernier en raison de pépins physiques, une commotion fin novembre, puis une blessure au quadriceps en début d'année. Quentin Juillard préfère miser sur sa formation et sa préparation pour reprendre la compétition lors des championnats de Suisse fin décembre.
Alors la décision a été prise en collaboration justement avec mon pilote et puis la fédération. Comme j'ai eu des soucis de commotion l'année passée, la fédération a décidé de ne pas m'envoyer là-bas. Ça prenait tout son sens, sachant que y avait des risques au niveau de la piste, parce que c'est une piste qui est assez technique. Donc ils ont préféré me laisser à la maison, me reposer, me préparer physiquement pour revenir au top l'année prochaine.
Après cette commotion, il y a de l'appréhension de votre part. Vous n'êtes plus remonté dans un bob ?
Oui, ça fait maintenant bientôt une année que je suis plus remonté dans un bob. Donc effectivement, toujours un peu d'appréhension. Mais je pense que j'ai bien travaillé très dur pour revenir. Et puis je pense que c'est derrière moi, en tout cas je l'espère.
Après Yangqing, il y a des manches en France et en Autriche. Pourquoi vous ne serez pas non plus de la partie ?
Parce que je passe actuellement des examens au niveau des assurances. Donc les examens tombent pile pendant les dates de Coupe du Monde, malheureusement pour moi. Maintenant, on est une équipe bien compétitive, donc j'ai aussi un remplaçant pour ces manches. Donc ça me permet de me concentrer sur cette formation et puis aussi prévoir l'avenir après le bob.
Quentin Juillard qui répondait à Émilie Moumentaler. Retour espéré en Coupe du Monde mi-janvier à Saint-Moritz. Et le Jurassien espère être retenu pour les Mondiaux de Winterberg en Allemagne. Ce sera début mars.